Radio Okapi.
À la présentation, Jocelyne Moussaou.
En Ituri, au moins 21 morts, des blessés et des pillages après une offensive sanglante de la milice Codeco contre Zaïre, alliée à la CRP à Nizi et Lopa. La population est en fuite et la situation sécuritaire est toujours instable dans le territoire de Djougou. Et à Kinshasa, c'est un autre drame qui a endeuillé plusieurs familles tôt ce mardi. 4 morts et une vingtaine de blessés dans un accident sur la route de Matadi. Un véhicule en provenance du Congo central a percuté des vendeurs près du marché délocalisé de Matadi-Kibala. La province de Lomami a célébré dimanche les 15 ans de la radio communautaire d'Itunga de Ngandajika. Dans ce journal, l'abbé Chibaka Chikongo, promoteur de cette station, reviendra sur son parcours. Bonsoir à tous. Commençons en Ituri. Au moins 21 personnes sont mortes et d'autres blessées lors de l'offensive hier lundi de la milice Codeco contre le groupe armé Zaïre, allié à la CRP à Nizi et Lopa, deux localités situées à une trentaine de kilomètres au nord de Bounia dans le territoire de Djougou. Des sources locales renseignent que les combattants de Codeco se sont retirés de ces entités, mais des tirs sporadiques se font encore entendre et des scènes de pillage sont signalées dans la région qui est vidée de tous les habitants. Isaac Remoyope.
À Nizi, où la milice Zaïre a opposé une certaine résistance, 18 personnes ont été tuées selon les autorités coutumières locales. La majorité des victimes sont des civils et l'on dénombre également une dizaine de blessés. D'autres sources parlent des 12 miliciens de Zaïre neutralisés lors des combats avec des armes récupérées sur place. À Lopa, la société civile déplore la mort de 3 civils et 2 blessés lors de l'entrée brutale de la Codeco dans la localité. Là aussi, la population a fui massivement. Les combattants des Codeco se seraient depuis retirés d'après des sources locales, mais des tirs sporadiques continuent de retentir, maintenant la population dans la peur. À Nizi, certains déplacés s'apprêtaient à rentrer chez eux avant de rebrousser chemin, découragés par de nouveaux tirs et des scènes de pillage. Des pillages attribués notamment à certains éléments des FARDC, selon certains témoignages. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée. Le trafic reste suspendu, tout comme les activités commerciales dans les deux localités. La situation sécuritaire reste donc instable et très préoccupante dans cette partie du territoire de Djougou. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu, où les combats reprennent entre le M23 et plusieurs groupes armés dans le territoire de Rutshuru. Des affrontements opposent les rebelles AFC M23 sur plusieurs fronts ce mardi. Selon plusieurs sources locales, ceci intervient après au moins 3 jours de combats opposant le même mouvement AFC M23 aux combattants Wazalendo de Nduma pour la défense du Congo dans une partie du territoire voisin de Walikale. Ces sources déplorent la résurgence de ces combats moins de 72 heures après la signature de l'accord de principe de Doha. À Kinshasa, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et l'ONG Bridgeway se serrent les coudes pour mettre fin au phénomène ADF dans le territoire de Beni et ses environs. Ces deux organisations ont formalisé leur collaboration hier lundi à Kinshasa en présence du représentant de la vice-primature de la Défense nationale. Les détails avec Blaise Ndungala.
Ce protocole de collaboration est un contrat de confiance fondé sur la responsabilité mutuelle et l'exigence institutionnelle. Il vise la déradicalisation des extrémistes violents actifs en RDC, le soutien de la réintégration durable des ex-combattants ainsi que la protection des communautés exposées au terrorisme violent. Ces cadres de collaboration reflètent la volonté de l'État congolais de réaffirmer pleinement son autorité, sa souveraineté et son leadership à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation considérée comme un levier stratégique pour la paix et la sécurité. Ce cadre structurant n'est pas un frein à l'action, mais plutôt une condition essentielle pour bâtir la confiance, réduire les risques et garantir que chaque effort ait un réel impact sur le terrain, explique le coordonnateur national du PDDRCS.
Aucune action sur le terrain, aucune communication, aucune modification des zones ou des modalités d'intervention ne pourra être engagée sans consultation préalable et validation écrite du programme.
Le chef de mission de l'ONG Bridgeway affirme que son organisation travaille à la sensibilisation des rebelles ADF et mène plusieurs autres campagnes en faveur des démobilisés.
Toujours à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur a fait le point devant la presse sur la déclaration de principe signée à Doha avec la rébellion 1-23 AFC. Jacquemin Chabani a clarifié hier lors du briefing de presse avec son collègue de la communication et des médias la position du gouvernement sur cette déclaration de principe. Une synthèse de ce briefing de presse avec Marcel Ngombo.
D'emblée, le ministre a expliqué que la déclaration de Doha constitue une étape préliminaire ouvrant la voie à un accord de paix formel prévu le 17 août 2025 avec un mécanisme de vérification impliquant le Qatar et la MONUSCO. Pour Jacquemin Chabani, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées est une exigence incontournable qui passe par le retrait des forces rebelles, le retour de l'administration publique et le redéploiement des forces nationales de sécurité. Il insiste qu'il est hors de question de confier la sécurité des Congolais à une force autre que l'État. Il poursuit que cette restauration de l'État passera par la réinstallation des institutions publiques dans les zones concernées. Il a rappelé que deux mesures transitoires avaient été prises, comme la délocalisation temporaire des capitales provinciales à Beni et Uvira, en attendant un redéploiement complet. La RDC veut rompre avec le cycle de violence, a noté au passage Jacquemin Chabani après avoir identifié les causes du conflit, en partie provoquées par le Rwanda. Le ministère de l'Intérieur a révélé préparer le redéploiement administratif et sécuritaire, notamment avec un renforcement du rôle de la police nationale, instrument central de la reprise en main étatique. Ces processus s'inscrivent dans le cadre de la mise en offre des engagements contenus dans la déclaration des principes de Doha.
Et la signature de l'accord de principe intervenu le week-end à Doha entre la délégation du gouvernement congolais et les rebelles du 1-23 marque un pas important vers la stabilisation de l'Est de la RDC. C'est l'avis exprimé par l'ambassadrice de la Belgique à Kinshasa lors de son discours tenu hier soir à l'occasion de la célébration de la fête nationale belge. Pour cette diplomate, les efforts déployés par divers partenaires pour trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'Est du pays bénéficie du soutien de son État. Elle a profité de cette occasion pour réaffirmer l'engagement de la Belgique à continuer d'appuyer la RDC en toutes circonstances. Les propos de l'ambassadrice belge en RDC, Roxane Debiderling, sont repris dans cet extrait choisi par Ronéline Tibounera.
La Belgique se tient plus que jamais aux côtés de la RDC pour œuvrer ensemble à une vie meilleure pour la population, dans la paix, le développement et la cohésion. Nous mettons en œuvre ici notre plus grand programme de coopération. Sur le plan politique, la Belgique soutient activement les efforts consacrés par divers partenaires pour faire cesser le conflit et assurer un chemin vers la paix. Et je tiens ici à saluer la récente signature de la déclaration de principe entre les autorités et le mouvement AFC M23 à Doha. C'est une avancée qui marque un moment crucial pour la quête de paix et de sécurité pour les populations à l'est de la RDC. Il faut continuer à aller de l'avant en ce sens. De manière résolue, dans les prochaines semaines, nous continuerons à appuyer les initiatives qui viseront à mettre en œuvre ces accords et à établir et consolider une paix durable.
Parlons à présent de ce drame de la circulation à Kinshasa. 4 morts et une vingtaine de blessés. C'est le bilan d'un accident qui s'est produit ce mardi vers 5h du matin sur la route de Matadi, au niveau du marché délocalisé de Matadi Kibala, au camp PM, dans la commune de Mongafula. D'après l'autorité communale, un véhicule en provenance du Congo central a connu une panne et a ramassé des vendeurs sur son passage. Suivez ces précisions de Danny Kwete, administrateur du marché, joint par Babel Pongo Massimanko.
Il y a un véhicule, un ben, qui a perdu contrôle. Ça partait vers la direction IPN. Ça venait vers Mutendi. C'est allé vers l'autre bande. Ça a pris quelques passants et puis le vendeur et vendeuse qui étaient juste à l'entrée du marché. Les sites provisoires qu'on a prévu ériger les opérateurs économiques en attendant la construction du marché vers l'ancien site. Pour l'instant, nous avons 4 morts et 21 blessés qui sont éparpillés dans les différents centres de santé.
autre nouvelle, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC met en place l'équipe provinciale des Nations Unies EPNU en sigle. C'était hier à Kisangani au terme d'une réunion ayant regroupé tous les chefs d'agence de Kisangani, Bouta et Isiro. Cette approche vise notamment à assurer la planification des actions sur le terrain. Elle va également renforcer le partenariat local, comme l'explique Bruno Lemarquis. Il est au micro de Jacques Mkonkolé.
Il y a pas mal d'agences des Nations Unies qui travaillent ici dans la Tchopo. Donc l'idée, c'est de travailler encore plus comme système des Nations Unies, par exemple sur des thématiques communes qui sont rassembleuses de plusieurs agences. Comme ça, les agences travaillent vraiment ensemble, encore plus que maintenant. Si je prends par exemple le potentiel du couloir vert dans la Tchopo, c'est un gros sujet à Kinshasa, le couloir vert. Donc voilà, comment est-ce que les agences peuvent réfléchir ensemble, travailler ensemble. Tout ce qui est l'appui aux autorités provinciales pour la planification du développement, c'est un sujet qui concerne toutes les agences. Comment travailler beaucoup plus ensemble quand il y a des rencontres avec les autorités provinciales ou avec les partenaires de la société civile ou avec les visiteurs, les partenaires techniques et financiers, les Nations Unies sont mieux organisées, parlent d'une seule voix. C'est ça l'idée.
Cette équipe va élire prochainement son chef ainsi que son adjoint pour l'animer. Elle est la 8e à être installée dans le pays après celle du Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Ituri, Okatanga, Kasaï occidental et l'Équateur. Et puis, dans la province du Haut-Uele, la zone de santé de Niangara fait face à une rupture des tests de dépistage du VIH-Sida depuis près d'une année. À cela s'ajoute l'absence de médicaments pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant. Une situation alarmante qui met en péril la santé de plusieurs centaines de femmes enceintes et de leurs enfants. Jean-Claude Lokidile.
Plus d'un millier de femmes enceintes n'ont pas été dépistées au VIH lors des consultations prénatales à Niangara. Résultat, 16 enfants nés de mères séropositives entre juillet 2024 et juin 2025 n'ont pas bénéficié d'un suivi médical adéquat. Sur les 3091 femmes enceintes attendues à la consultation prénatale, seulement 1671 ont été testées. C'est une situation très inquiétante car certains enfants peuvent naître déjà infecté. Docteur Didier Amoudiandroi, médecin chef des zones de santé de Niangara.
La ligue contre le VIH veut à ce que on puisse tester le maximum de personnes. Vous voyez que non, tout ça, si ce n'est pas fait, c'est difficile maintenant de stopper soit la transmission, si tout mère à l'enfant, et aussi stabiliser ceux qui sont déjà infectés.
La situation devient d'autant plus préoccupante quand on sait que la prévalence du VIH-Sida dans les Haut-Uele est estimée à 7,4% selon une enquête menée entre 2023 et 2024. Le docteur Amoudi Androi lance un appel pressant au gouvernement et aux responsables du programme VIH.
Ça pourrait vraiment permettre à ce qu'on puisse bien aider les bénéficiaires.
Malgré cette crise, la zone de santé de Niangara dispose encore d'un stock suffisant d'antirétroviraux pour les patients déjà sous traitement. Jean-Claude Loki, il est Radio Capi.
Avant l'actualité internationale, cette bonne nouvelle. La République démocratique du Congo vient d'acquérir 3 bateaux de pêche industrielle. Ces engins flottants en provenance d'Égypte ont accosté le week-end au port de Boma, dans la province du Congo central. Une équipe technique du ministère de la Pêche et de l'Élevage a été dépêchée à Boma pour sa réception. Le cadre de concertation de la société civile de Mwanda, qui salue cette acquisition, recommande une gestion optimale de celle-ci et une exploitation de la main-d'œuvre locale. Ces navires de pêche industrielle portent les noms des grandes personnalités congolaises, dont Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu et Étienne Tshisekedi. Le point avec Nana Plurich-Mambou.
Selon l'équipe technique du ministère de la Pêche et de l'Élevage, ces navires ayant accosté le week-end dernier au port des Bananes à Mwanda font partie d'un projet lancé en 2021 par le gouvernement national pour renforcer l'autonomie du pays dans la pêche industrielle de poissons et réduire massivement leur importation. L'acquisition de ces navires est appréciée par les cadres de concertation de la société civile de Mwanda. Dans une déclaration à la presse, cette structure recommande leur gestion rationnelle.
Le cadre de concertation de la société civile du territoire de Mwanda a accueilli avec joie l'arrivée des 3 chalutiers dénommés Étienne Tshisekedi de Wamulumba, Simon Kimbangu et Patrice Emery Lumumba, ce qui ouvre une nouvelle agence de pêche pour laquelle le cadre de concertation de la société civile du territoire de Mwanda exige une gestion rationnelle.
Ces navires fabriqués par l'entreprise égyptienne Yetu pourraient bénéficier d'une allocation de 15 millions de dollars du gouvernement congolais. Ils sont destinés à la pêche en haute mer. Ils opéreront aussi bien dans les bassins du fleuve Congo que dans les eaux atlantiques. Matadi, Nana Pluris Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale. Au Mali, l'ancien premier ministre Moussa Mara, empêché de voyager sans justification légale. Moussa Mara n'a pas été autorisé à monter hier lundi dans son vol Bamako-Dakar, où il devait participer à une conférence internationale sur la paix au Sahel. Il avait été longuement interrogé la semaine précédente au sujet d'un message publié sur les réseaux sociaux, mais la justice malienne l'avait laissé repartir sans retenir aucune charge contre lui. En Côte d'Ivoire, 20 ans de prison. À nouveau, réquis contre Abdoulaye Fofana. Le deuxième procès de l'ex-aide de camp de Guillaume Soro s'est tenu hier lundi devant le tribunal criminel d'Abidjan. Entre autres chefs d'accusation, l'ancien militaire était cette fois jugé pour actes terroristes, attentats et complot contre l'autorité de l'État pour son rôle allégué pendant la crise électorale de 2020 qui avait fait plus de 80 morts.
L'invité.
Dans la province de Lomami, la radio communautaire d'Itunga de Nganajika, émettant sur la 102.3 FM, a totalisé 15 ans d'existence. Une messe d'action de grâce s'est tenue dimanche en Nganajika pour célébrer cet anniversaire. Pour en parler, nous recevons le promoteur de cette radio, Abbé Chibaka Chikongo, qui s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, professeur Abbé Recteur Chibaka Chikongo. Aujourd'hui, la radio d'Itunga totalise 15 ans d'existence. Qu'est-ce que cela représente pour vous?
Célébrer 15 ans d'une radio, c'est vraiment vivre une étape, un tournant dans sa vie. Parce qu'une radio est un média très utile, mais c'est aussi un média très coûteux, surtout dans un milieu rural où, malgré la générosité des gens, vous ne parvenez pas à réunir tous les moyens nécessaires pour la faire fonctionner. Et il n'est pas facile de trouver non plus des ressources humaines, parce que la plupart des personnes formées abandonnent nos villages et préfèrent vivre en ville. Et donc avoir tenu pendant 15 ans, c'est pour nous un motif de joie et de fierté, l'occasion de célébrer tous ceux qui ont rendu cela possible.
En créant cette radio, quel objectif avez-vous poursuivi?
Radio Itunga fait partie de l'ASBL d'Itunga. Donc ce n'est qu'un département, un service qui apporte un support médiatique à tout le travail de développement que nous réalisons dans notre région, qui est un travail qui comprend plusieurs secteurs, donc la scolarisation, l'agriculture, la protection de l'environnement, les questions de santé, la protection des enfants abandonnés, la promotion de la femme, la prise en charge des prisonniers, l'appui aussi à l'église. Donc, c'est plusieurs programmes que porte notre petite association. Et on a découvert que ce travail-là, lorsqu'il atteint une certaine dimension, a besoin d'un appui médiatique. Et donc là, ça a été notre grand objectif, offrir à notre travail social, mais par-delà notre structure, c'est rendre service à la communauté en créant un média libre, indépendant. Notre ligne de gestion, c'est la gratuité, sauf quand il est question de la propagande politique, commerciale. L'information est gratuite, les interviews sont gratuites. Tout est gratuit. La garantie de l'indépendance, de l'autonomie. Donc, on a voulu construire un média libre, indépendant, objectif, être un média crédible, professionnel, dans les limites de nos moyens.
Les services qu'offre Radio d'Itunga sont gratuits. Comment faites-vous face aux charges, dont notamment la paye des journalistes qui travaillent et aussi l'achat de matériel de travail?
Notre radio fait partie d'une ASBL qui, en dehors des œuvres de charité, a des œuvres d'autofinancement par laquelle elle finance ses œuvres. Et donc là, c'est fondamental pour nous. Les bénéfices que nous faisons dans les champs, la vente de produits agricoles, l'hôtellerie, ça nous permet de porter la charge de toute la structure, y compris la radio. Mais aussi la population locale, dans la mesure de leurs possibilités. Nous savons par exemple que les stylos, les papiers sont généralement donnés par les auditeurs. Et il y en a même qui nous font des dons en nature, des légumes, des bananes, du maïs, du manioc, des pigeons ou un coq pour la radio, pour leur radio. Ça, c'est notre deuxième source de contribution.
Et qu'est-ce que vous faites avec ces dons en nature?
Les dons en nature, non, les convertissons, on peut dire, bon, cette poule, c'est 20 000 francs ou 15 000 francs. Alors, si un des travailleurs veut l'acheter, il achète, ça entre dans la caisse de la structure, moi-même, ou bien un autre service d'hôtellerie peut racheter des dons en nature pour les clients et faire une compensation en faveur de la caisse de l'association.
Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés?
Beaucoup de défis du point de vue des ressources humaines. Comme je l'ai dit, on est dans un milieu rural où les compétences techniques ne sont pas nécessairement présentes. Beaucoup de gens formés restent dans les villes. Il y a le défi des infrastructures. Vous êtes dans un milieu rural sans aucun réseau d'électricité publique. Au début, ça nous coûtait 3 000 $ chaque mois en termes de carburant. Puis nous avons évolué vers le solaire, mais ça demande de gros investissements. Il y a le matériel qui vieillit, qu'il faut renouveler, qui coûte cher. On est en train de renouveler tout le matériel. On est même passé d'un émetteur de 1000 à des émetteurs, et on en a 3 de 1000, on est passé à 2000 watts. Donc il faut adapter les antennes. Ça fait toute une nouvelle radio, de nouveaux appareils qu'il faut acheter. Il y a aussi le défi du harcèlement administratif. Vous êtes soumis par des fonctionnaires de l'État et souvent en violation des normes de l'État à une fiscalité arbitraire.
Professeur Abbé Recteur, je vous remercie.
Merci beaucoup, Mama Esther Ndalafina.
Et nous souhaitons un joyeux anniversaire et une longue vie à notre consoeur, la radio d'Itunga de Ngandajika. C'est sur cette note joyeuse que nous bouclons ce journal coordonné par Alain Hirung et mis en onde par Billy Landry Betou. Merci de nous avoir suivis.